Alors peut-être êtes-vous venu ce matin dans l'espoir de continuer notre exploration de Galates 5, verset 22. Mais si vous êtes dans ce cas, vous en serez pour vos frais, car nous en avons terminé avec Galates 5, 22. Place à Galates 5, 23. Puisque la liste des constituants et autres saveurs de l'esprit se poursuit au verset 23, par la douceur. Je triche un peu parce qu'en fait, le point de bascule entre le verset 22 et le verset 23 varie d'une traduction à l'autre et parfois même d'une édition à l'autre au sein d'une même traduction, soit ici entre la fidélité et la douceur, soit à la fin de la liste. Bref, venons-en à notre sujet qui est la douceur. La douceur. Aïe. Je ne sais pas pour vous, mais l'évocation de ce mot m'interpelle et souvent me reprend. D'ailleurs, vous remarquerez qu'en français, douceur et douleur ne diffèrent que d'une lettre. Quand la douceur manque, bonjour la douleur. Donc, je me suis livré à une petite recherche rapide des mots et racines de mots du texte biblique original qui sont généralement traduits en français par « doux » ou « douceur ». Et j'en ai trouvé principalement trois. Le premier sens qu'on trouve beaucoup dans l'Ancien Testament véhicule une notion de sucré, d'agréable au goût. Ne dit-on pas qu'un dessert est plus ou moins doux, et certains même emploient le mot de douceur pour parler de bonbons ou de pâtisserie. Deuxième origine, la douceur dans un sens de modération. On la retrouve principalement dans les épîtres de Paul. Philippiens, par exemple, que votre douceur ou modération soit connue de tous les hommes, mais aussi les écrits de Pierre et de Jacques. La modération dans nos comportements et nos pensées, l'idée de ne pas verser dans l'excès, quand bien même ce serait pour de bonnes causes. Et dans son épître à Tite, Paul la place à côté de la douceur proprement dite, cette modération, preuve qu'il s'agit d'une notion un peu différente, bien que proche. Et enfin, la troisième origine, et c'est celle-ci qui figure dans Galates 5, 22 ou 23 et que nous allons développer, cette troisième racine a ceci de particulier, qu'on la retrouve presque exclusivement dans les épîtres de Paul et 9 fois dans les épîtres de Paul et dans la bouche de Jésus. Et il correspond à une douceur de disposition, une gentillesse d'esprit. Ce sont les débonnaires, les doux, qu'évoque Jésus dans le sermon sur la montagne. Et en dehors des écrits de Paul et des paroles de Jésus, on retrouve ce sens une seule autre fois dans la première épître de Pierre, mais qui est tout de même intéressante à prendre en compte. C'est lorsqu'il parle des qualités naturelles qu'on peut attendre chez une femme, un esprit doux et paisible, une certaine idée de la douceur féminine naturelle qui peut être une source d'inspiration pour toute la communauté chrétienne et peut-être en particulier pour nous les hommes. Et si nous prenons ces trois figures que représentent Jésus, Paul et Pierre, qui utilisent cette racine de mot, et que nous mettons en regard tous leurs actes et leurs écrits, avec ces descriptions et leurs descriptions et recommandations qu'ils nous font de la douceur, nous pouvons ressentir un malaise. Jésus, par exemple, qui renverse les tables, chasse les vendeurs du temple, et même Jean nous précise au moyen d'un fouet. Bonjour la douleur. Le contraste avec ces paroles qui s'affichent ici, est saisissant. Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30, les paroles que nous aimons lire. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et courbés sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Si nous sommes mal à l'aise avec ce Jésus qui semble sévir sans avoir donné le moindre avertissement, il nous faut tout de même considérer ce que dit Jean dans son évangile en conclusion de cet épisode. Il dit « Les disciples se souvinrent de ce qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. » Donc les avertissements des prophètes, on peut très bien les retrouver dans l'Ancien Testament, étaient nombreux et ne dataient pas d'hier à dénoncer la mainmise sur le temple de toute une économie indécente et florissante. Prenons le cas de Pierre maintenant, qui, je vous le rappelle, a mis en exergue la douceur féminine comme source d'inspiration et que nous voyons dénoncer dans sa deuxième épître et avec une très grande sévérité de jugement les faux enseignants au discours vide, peut-être pas vide de sens, mais vide de cohérence avec ce qu'on peut voir d'eux, qui se servent de l'Église plutôt qu'ils ne la servent, présomptueux et arrogants. Après, avec des mots très, très forts, Pierre les qualifie de fontaines sans eau, de nuages poussés par les tempêtes. Et enfin, nous avons Paul, un serviteur de Dieu qui ne mâche pas ses mots, en particulier dans les épîtres, on n'a que des épîtres de Paul, qui ne mâche pas ses mots dans les épîtres, et en particulier dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 10. Moi, Paul, je vous adresse un appel par la douceur et la bonté de Christ, moi qui suis humble quand je suis parmi vous, mais plein de hardiesse envers vous quand je suis loin. Je vous en prie, ne me forcez pas, lorsque je serai présent, à recourir avec hardiesse à l'assurance dont je compte faire preuve contre quelques-uns, contre ceux qui estiment que nous nous conduisons de façon purement humaine. Ici, parmi les croyants de Corinthe, certains semblent ironiser sur la capacité de Paul, qui est connu pour bien envoyé dans ses écrits, pour s'avérer finalement conciliant, décevant, pour ne pas dire faible, en situation. Et en plus, il ne le considère pas comme assez spirituel. Et en réponse à cela, dans la même déclaration, dans une même déclaration, Paul juxtapose douceur, bonté, hardiesse et menace de fermeté. Et le message est celui-ci. Si vous ne savez pas saisir les bienfaits de ma douceur, alors vous aurez affaire à ma rigueur. Choisissez. Et d'ailleurs, ce n'est pas le premier avertissement de ce genre qu'il adresse aux Corinthiens. Déjà, dans sa première lettre, il écrit à ceux qui se voient déjà plus spirituels que lui qui les avait évangélisés. Que voulez-vous ? Que je vienne chez vous avec un bâton ? Ou avec amour et dans un esprit de douceur. Ceci signifie, c'est vous qui avez en main la manière avec laquelle je m'adresserai à vous, choisissez. Alors, en préparant ce message, j'ai découvert dans les Proverbes une pépite qui m'avait jusque-là échappé et qui se trouve au chapitre 16, verset 21, l'homme au cœur sage est appelé intelligent et la douceur des lèvres augmente la force de persuasion. La douceur des lèvres augmente la force de persuasion. Les gens convaincants parlent doucement, paisiblement, lentement, pour laisser à leur interlocuteur le temps, la sérénité de recevoir, de comprendre, de s'approprier le sens de leur message. Et si certains ont ce don d'une manière naturelle, vous avez compris que ce n'est pas mon cas, c'est contre nature pour bon nombre d'entre nous. Hausser le ton, augmenter le débit, prendre un ascendant sur son interlocuteur pour le convaincre est malheureusement une inclination naturelle, non seulement agressive, mais aussi contre-productive et propre à installer l'incompréhension et le conflit. La douceur est le premier choix, la première option qui se présente à nous, la voie royale vers le partage, la fraternité, la confiance, la paix. Elle est même et surtout le premier choix en cas de reproche. Toujours dans l'Épître aux Galates, Paul écrit « Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. » Qui est aussitôt suivi d'une recommandation, veille sur toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Considérer notre propre faiblesse nous amène à être compréhensifs et compatissants dans notre approche et renforcer une attitude de douceur. Et lorsqu'elle est ainsi administrée, la douceur est un cadeau, une chance, une sucrerie qui nous est donnée, presque une grâce à saisir. La douceur qui nous rappelle la douceur de Jésus à notre égard, sa grâce qui accompagne la conviction de péché. Dans son enseignement des principes pastoraux à Timothée, Paul nous révèle le but à ne pas perdre de vue pour un serviteur de Dieu dans l'exercice de la discipline. Dans le deuxième épître à Timothée, nous lisons ceci, « Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Le but clairement exprimé ici n'est pas d'accuser, mais de corriger et de relever. Et la douceur est le moyen, la douceur est l'approche. Négliger la douceur, c'est, d'après ce passage, hypothéquer les chances de voir la personne se corriger et se relever. Donc, on le voit, la douceur est l'option à privilégier de prime abord dans les situations de confrontation, la douceur d'abord. Et bon nombre, d'ailleurs, des occurrences que nous trouvons dans la Bible pour cette racine de mots est citée dans des situations de confrontation. Quel bonheur et quelle paix quand les oppositions se calment par l'usage de la douceur, de la voie royale. Quand nous venons à l'Église, nous venons avec une certaine attente de douceur. Et cette attente est légitime. Dans quelle institution trouverions-nous la douceur de Jésus si elle désertait l'Église? Et à l'image de son chef, l'Église se doit d'imprégner ses relations de douceur. Malgré la perte de pans entiers de culture chrétienne dans la société d'aujourd'hui, l'image d'un Jésus plein de douceur, je pense, est relativement préservée dans les consciences des hommes de notre société, qui s'attendent à trouver des disciples à l'image de leur maître. Selon un commentateur, le mot « doux » correspondrait à un animal sauvage qui aurait été dompté et qui deviendrait paisible et obéissant. Nous savons, nous sommes tous par nature des êtres mal dégrossis sur le plan spirituel, brutes de décoffrage, comme on dit. Mais Dieu accepte de nous prendre tels que nous sommes et de nous traiter avec douceur. Que demander de plus ? Que demander de plus ? Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, nous dit un psaume. Mais, poursuit-il, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne, afin qu'ils ne te bousculent pas. Oui, notre Seigneur est doux et son joug n'est pas pesant. Il sait nous faire progresser et corriger nos défauts à notre rythme. Ferme, mais pas dur. Doux, mais pas mou. C'est seulement quand nous nous raidissons qu'il se résout à utiliser la contrainte envers nous. Nous l'avons dit en entrant dans l'Église, une attente légitime de douceur. Et puis nous avons aussi un devoir de douceur. Douceur à nous prodiguer les uns aux autres. Nous avons beaucoup évoqué jusqu'à présent la douceur dans les situations de confrontation, mais bien heureusement, ce n'est pas seulement dans ces circonstances qu'elle a cours. La douceur a sa place dans tous nos échanges, et plus encore dans nos échanges avec le reste du monde, comme un avant-goût de la douceur de Jésus. Elle jette des ponts entre les hommes, désarme les méfiances, fait tomber les masques, instaure la paix. Douceur à attendre, douceur à donner, et dernier point, douceur à recevoir. Quelle tristesse quand cette grâce, ce goût agréable et sucré de la douceur n'est pas reçu à sa juste valeur, quand elle ne rencontre que l'indifférence et le mépris, comme plusieurs envers Jésus, la défiance et l'opposition, comme envers Paul, l'égarement et l'entêtement, comme l'évoque Pierre. Peut-être avons-nous là un prolongement de la manière avec laquelle on a reçu la grâce de Dieu. Car si bien des gens rejettent la grâce de Dieu, c'est parce qu'ils n'en mesurent pas la valeur. Mais le perdant dans l'affaire, ce n'est pas Dieu qui donne sa grâce, c'est celui qui ne la reçoit pas. Et là, je pense au doux, au débonnaire, que Jésus évoque dans le sermon sur la montagne, leur douceur de disposition, leur gentillesse d'esprit. Voici la définition du terme grec qui est employé et traduit par doux, par les doux, les débonnaires. Définition, c'est une disposition. J'aurais pu l'afficher, tiens. Je n'ai pas dans mon PowerPoint. Tant pis. Une disposition d'esprit par laquelle nous acceptons tout ce qu'il nous donne comme étant un bienfait, et ceci sans discussion ni résistance. Je répète, une disposition d'esprit par laquelle nous acceptons. Tout ce qu'il nous donne comme étant un bienfait, et ceci sans discussion ni résistance. On pourrait penser qu'il s'agit là d'une disposition naturelle dont certains seraient dotés. Alors, en partie, c'est vrai, mais le mot disposition m'interpelle. Disposition. Et là, tout à coup, me revient à l'esprit ce vieux chant qu'on trouve dans le Gémin, mais qui remonte à plus longtemps que ça, à mon avis. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Il cite le psaume 51. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et disposer mon cœur à recevoir avec douceur toute instruction, c'est l'action de Dieu en moi qui se renouvelle jour après jour. Ceci nous ramène au fruit de l'esprit, le mot fruit, c'est-à-dire tout ce que Dieu produit en nous par son esprit. C'est une disposition que je peux désirer et attendre de Dieu, qui me rendra toujours prêt à recevoir avec douceur une parole, une instruction, si besoin une correction, par le moyen ou la personne que Dieu suscitera. Pour terminer, je remets à l'écran cette phrase de Jésus, qui peut être peut-être notre guide pour cette semaine. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes.